troisième jour. Aujourd'hui, notre bateau semble porté par un courant plus vif qui oblige à bien tenir la barre pour ne pas dévier. Le temps s'est rafraîchi, nous craignons la pluie. En alternance avec les prairies, des bois plus ou moins denses, peuplés de feuillus plus ou moins hauts, bouchent la vue et couchent sur le fleuve des ombres que notre bateau fait danser sur son passage. Quel que soit le paysage que nous traversons, tu t'extasies devant la beauté des choses, la qualité de la lumière, la richesse des couleurs, la majesté des arbres. Tout te ravit, tout te fait plaisir, tout t'enchante. Tu regardes le monde non comme si tu savais devoir trop tôt le quitter, mais avec les yeux de la première fois. Dans ce qui désormais ressemble plus à une forêt qu'à un bois, tu dis soudain avoir aperçu une silhouette vêtue de rouge. Ça ne te rappelle rien? J'avance l'idée du petit chaperon, voire du loup déguisé en petite fille, mais tu m'interromps péremptoire. T'en fais d'un, beau loup. C'est moi, Nigo, 17 ans. Et ce gilet rouge qui n'avait rien d'un capuchon, ne me dis pas que... Non, je ne dis rien, même si un peu contrarié quand tu avais frappé à ma porte ce jour-là, car j'avais prévu les copains et la musique. Mais tu étais belle et désirable, et la première que j'allais serrer dans mes bras, embrassée à pleine bouche, caressée par tout le corps. Commencerait alors une aventure de plus de 40 ans, mais aucun de nous n'aurait pu le prédire. Seul le présent comptait, comme aujourd'hui. Et c'est peut-être pour cela qu'il vaut mieux ne pas trop se retourner, ne pas trop s'attarder sur ce qui a été au risque d'en négliger ce qui est, ce fleuve que nous descendons ensemble pour quelques jours, quelques semaines au gré des courants et des couleurs du ciel. Cela dit, en réponse à ta question, oui, je me souviens de ton gilet rouge, porté à même la peau, et combien chaque nouveau bouton que j'en défaisais attisait notre désir, combien mes mains tremblaient, combien nos corps à l'unisson vibraient. Au milieu des bois, une grande bâtisse, pas tout à fait château, bien que dotée d'une tourelle à toit pointu, sans doute là que se trouve la chambre de la dame vêtue de rouge, pas tout à fait princesse, ce qui n'empêche, me dis-tu, qu'à la nuit tombée, les yeux des loups scintillent quand elle se dévée devant sa fenêtre éclairée. L'image te fait sourire, et ta main appelle la mienne pour l'embrasser, puis la faire glisser sur ta poitrine avant de la nicher au creux de tes cuisses. Au bout d'un moment, je te murmure à l'oreille que nous dérivons, et c'est alors le rire qui nous saisit, un rire comme nous en avons connu mille, mais qui cette fois encore pour toi se brise en tout rauque, tandis que je reprends la barre pour redresser notre bateau. Nous dérivons, dis-tu encore après avoir repris ton souffle, puis tes paupières se ferment, et tu te laisses emporter par une vague intérieure vers la somnolence, loin du fleuve et de moi. La radio raconte d'autres dérives, collectives et individuelles, cruautés incompréhensibles, enrichissements insensés, conflits sporadiques qui envoient certains fuir le feu pour s'entasser chair contre terre dans des camps de fortune, quand d'autres calculent et accumulent avec cynisme. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Dis-moi, mon amour, rassure-moi, est-ce ainsi que nous avons vécu ? Car même si né du bon côté du monde, l'appât du gain et du pouvoir n'en est pas moins vif et nous pousse aux mêmes folies. J'aimerais tellement n'avoir jamais ni tué ni usurpé. Mais comment en être certain? Le fleuve ici se sépare en deux bras qui forment un îlot d'herbes hautes et de roncières sur plusieurs centaines de mètres. Les vestiges d'une cabane en émergent, pans de murs écroulés, tôles rouillées, chevrons dressés au ciel. Quel Robinson l'aurait un jour construite? Quels enfants y auraient joué à se croire naufragés au milieu de nulle part? À 12 ans, je rêvais à de tels endroits pour échapper au monde des adultes. À 17, je trouvais refuge dans les livres et en habitais certains comme on habite une maison ou un appartement dont on finit par connaître les moindres recoins. À ton réveil, tu dis, j'ai rêvé que notre chat roux s'était levé à l'intérieur de mon ventre, et que ma foi, il s'y trouvait bien et me tenait chaud. Le souvenir de ta main, sans doute. Nous franchissons un nouveau pont, semblable au premier de par son architecture. Un vieil homme en chapeau s'y tient accoudé à la rambarde et nous désigne le ciel d'un index tendu au moment où nous passons. Il ne nous faut pas longtemps pour comprendre son geste. Les premières gouttes de pluie s'écrasent sonores sur le pont du bateau et sur le toit escamotable que j'ai par précaution actionné au-dessus de ta tête. Bientôt, c'est le vacarme d'une averse d'orage et l'air se rafraîchit, la lumière décline. Nous naviguons sans visibilité sur un fleuve devenu méconnaissable, presque hostile. Nous pourrions nous échouer, je me dis, nous pourrions sombrer. Qui, à part ce vieil homme, qui nous aura vu passer? Qui pourra dire que nous avons été présents en cet endroit à tel moment de ce jour? Sans doute inquiète, toi aussi, tu tends la main dans l'espoir que la mienne la saisisse, mais je ne peux lâcher la barre, mon amour, et te le dis, et te le crie, mais tu ne m'entends pas. Alors, bien enveloppé dans ton plaid, tu te lèves, t'approches du poste de pilotage, me regardes intensément, et tandis que je croyais voir quelque détresse dans tes yeux, c'est au contraire l'exaltation qui les anime. Une exaltation de petite fille que la force des éléments impressionne et transporte. Nous avons tant dérivé, parviens-tu à me dire, que nous voilà perdus au milieu de l'océan. La fin est proche. Je ne relève pas le propos, lâche la barre un instant pour t'aider à gravir les deux marches qui nous séparent, et nous voilà bientôt serrés corps contre corps, tous deux aux commandes de notre bateau. Comme il en fut toujours par tous les temps. Pour raison de confort, je te fais passer devant moi, puis confie la barre à tes mains pour occuper les miennes à caresser ton corps. Ce qu'il en reste, me dis-tu, les glissant sous le plaid, sous le lainage, sous le maillot. J'ai toujours froid, me dis-tu, t'agrippant aux hanches pour faire basculer ton bassin vers l'arrière et mieux te sentir et faire monter mon désir. Arrête, me dis-tu, je ne vois plus rien. Et là, je comprends que ce n'est pas seulement la pluie qui fait écran. Nous sortons de la tourmente comme nous y sommes entrés. L'averse cesse le temps que tu sèches tes larmes, et le ciel aussitôt s'éclaircit. Des lames de lumière transpercent la forêt. Le fleuve se pare de brillance. La terre exhale des senteurs d'humus. Pendant quelques secondes, le silence est total. À peine si l'on perçoit le clapotis de l'eau sur la coque de notre bateau. Puis les oiseaux y vont de leurs chants qui semblent se répondre d'une berge à l'autre, tandis que, dans le lointain, des cris d'enfants, dirait-on, peut-être ceux de la dame au chaperon rouge, risques-tu, avant de suggérer qu'il s'agit plutôt du petit poucet et de ses frères, trop contents, comme nous, d'avoir retrouvé leur chemin. Nous décidons d'amarrer notre bateau au sortir de la forêt. Le ciel est alors marine, strié de mauve. Une brise souffle légère et nous apporte par bouffées des senteurs de terre et d'herbes mouillées. Au moment du coucher, alors que nous nous blottissons l'un contre l'autre, une chouette ulule très proche et tu dis « Merci la vie » et je répète après toi « Merci la vie ».